RCF.
Sur RCF, nous avons le bonheur une fois de plus d'accueillir des volontaires de l'association Accompagner. Aujourd'hui, Benoît Héché et Maurice Hérion. Benoît Héché, comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'association Accompagner ?
Eh bien, fort simplement, en vérité, je suis pensionné maintenant depuis 3 ans. Il y a énormément de pensionnés dans l'association, puisque nous avons du temps qui est une richesse, hein, qu'on donne un petit peu aux autres maintenant. Donc, je m'étais présenté dans une association qui regroupe, qui donne des adresses et des références d'un certain nombre de bénévoles à faire, parce que c'est un monde que je ne connaissais absolument pas. Et je suis tombé notamment sur Accompagner, qui a une consonance chrétienne, une consonance humanitaire. Et c'est fort simplement que j'ai fait ce choix.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette association quand le nom vous est apparu ?
Mais la notion d'accompagnement, ce n'est dans mon esprit, et encore et maintenant, surtout sur le terrain, ce n'est pas administratif. Hein, je ne suis pas enfermé, je dis je vais accompagner. Comment ? Je ne le savais pas. Mais donc, il y a un chemin à faire. Rencontrer les gens et faire un chemin avec. Ça, c'était le fondamental.
Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être retraité ?
J'étais directeur des ressources humaines dans quelques sociétés d'importance.
Donc, c'était pas un métier qui vous mettait en contact avec le public. C'était pas du tout. Vous n'étiez pas un ancien assistant social ou quelque chose du genre ?
Pas du tout. J'étais dans le social, si vous voulez, mais en interne et oui. Dans le business quand même. On va le dire comme ça. Hein ?
Et alors, vous, Maurice Hérion, comment est-ce que vous avez découvert l'association Accompagner ?
Mais en fait, j'en avais déjà entendu parler lors de la présentation qui avait été faite dans une église de Bruxelles lors de la création de l'association. Et je m'étais dit, tiens, quand j'aurai du loisir, ce sera quelque chose pour moi. Mais j'en avais pas beaucoup à l'époque. Et 10 ans après, quand j'ai décidé de passer à la pension anticipée, je me suis dit, c'est le moment. Puis, je pense que j'ai entendu juste avant d'aller m'inscrire une intervention du responsable à l'émission « Il était une fois ». Je me suis dit, ben voilà, ça c'est un signe. Et je me suis présenté et on a retenu ma candidature.
Et là encore, qu'est-ce que vous faisiez avant votre prépension ?
Eh bien, moi, justement, j'étais responsable d'un service linguistique dans la haute administration belge. Ça veut dire que je n'avais guère de contact en dehors de mes collègues directs. Donc, je cherchais absolument quelque chose où j'aurais des contacts en dehors, que je bougerais beaucoup plus et que je verrais un peu la concrétisation personnelle, donc voir le visage des gens, des dossiers, des matières que j'ai vu traiter pendant ma carrière professionnelle.
Benoît Héché, expliquez-nous de nouveau l'intuition de l'association Accompagner.
L'intuition, vous entendez quoi par intuition ? Le cœur de métier, qu'est-ce que c'est fondamentalement ?
Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui a inspiré cette association ?
Bon, en fait, un grand manque. Il manque tout simplement de pouvoir faire avec un bénéficiaire qui a des problèmes administratifs ou autres, de pouvoir l'accompagner sur le chemin d'aller d'un point A à un point B, de chez lui ou de l'association, vers l'endroit où se passe, où peut se résoudre, son problème. C'est faire le chemin. En réalité, qu'est-ce qu'on observe ? On a un problème, on va chez un avocat ou ailleurs, un CPS, que sais-je, et on vous dit, il faudrait aller là. Et la personne reçoit une adresse, reçoit un téléphone. Et après, c'est elle-même qui doit se débrouiller. Or, peu de gens peu qualifiés ou qui sont dans l'ennui ou dans le besoin, se débrouillent facilement. C'est ça.
Bien entendu, vous ne faites pas les démarches à la place des personnes.
Non. On les accompagne pour les faire et ça les aide grandement. Il faut bien dire que d'abord, puisqu'on parle de la structure d'accompagner, il y a d'abord que l'on décortique le problème avec que ces gens vivent ou qu'ils ont, au bureau même. On fait une sorte d'épiotage, descriptif du problème. À partir de là, ils sont orientés vers. Et les accompagnants de terrain font le chemin.
Alors, Maurice Hérion, comment est-ce qu'on devient accompagnant ? Est-ce qu'il faut être formé ? Est-ce qu'il faut des prédispositions ? Comment est-ce que ça se passe ?
Au départ, on n'en impose pas tellement, mais il faut avoir une qualité minimum, celle d'un petit peu de débrouillardise, d'un peu de patience aussi, un peu une attitude à l'écoute. Mais je pense que le principal ingrédient, c'est la bonne volonté aussi, tout en négligeant pas un petit côté professionnel. Il ne faut pas faire des choses qui risqueraient de se retourner contre le bénéficiaire parce qu'on aurait été maladroit ou mais sinon, c'est à la portée d'un grand nombre, je pense.
Dans l'association, il y a une espèce de coordination, de supervision, si j'ai bien compris. Il y a quelqu'un qui dirige les accompagnants.
Dirige, non. Donc on a une feuille de route, ce qu'on appelle de mission, qui décrit bien la situation. On peut obtenir des informations complémentaires auprès du coordinateur. Et alors, quand on a terminé la mission, on envoie un rapport Donc il y a les responsables qui se chargent un peu du suivi de la mission. Donc s'il y avait des gros problèmes, je crois qu'ils interviendraient. Moi, je n'ai pas. J'ai eu juste un cas au départ, mais sinon, ça se passe bien en général.
Mais le but, c'est évidemment que les personnes se prennent en charge elles-mêmes et qu'à un moment, elles n'aient plus besoin d'accompagnement.
Oui, c'est ça. Évidemment, c'est ça le but ultime, mais il faut bien se rendre compte que tous les gens n'en sont pas capables des premiers pas. Et que parfois, tout en, bien sûr, sauvegardant leur autonomie, on doit intervenir, entre guillemets, parfois pour rattraper ce qui s'est dit au cours de l'entretien avec l'interlocuteur social, ou empêcher une personne de déclarer ou de ne pas déclarer ce qu'il ne faudrait pas.
Alors Benoît Héché, justement, racontez-nous un exemple qui vous semble typique.
En venant ici, j'ai réfléchi à des exemples, je ne sais pas si on peut les appeler typiques, je vais en tout cas essayer de vous en citer deux, qui, moi, me sont restés en mémoire parce qu'ils sont, ils m'ont interpellé. Je me souviens d'un accompagnement qui fut assez long parce qu'il s'agissait quand même d'un travail sur 4 demi-journées dans une semaine d'une famille de Syriens. Donc, situation en Syrie, elle est bien connue, donc des réfugiés qui sont venus en Belgique et qui ont été accueillis d'ailleurs, qui dans un premier temps donc ont fait tout le parcours avec fait d'asile, restés plusieurs mois pour trouver à être régularisés ce qu'ils ont été. Ensuite, ils ont été là, on ne les connaissait pas encore, dans un logement de transit, ça s'appelle comme ça, un petit logement qu'on peut avoir dans les communes pour quelques mois. Et puis, il fallait qu'ils se stabilisent en Belgique, qu'ils vivent d'une manière autonome. Et c'est là qu'on les a rencontrés. Donc, via, comme on dit, des amis ou des connaissances syriennes et autres, ils ont signé un bail, je dis entre parenthèses, ils se sont, pour le dire simplement, fait assez bien avoir, mais d'ailleurs ces gens se font souvent avoir, entre guillemets, 700, presque 800 euros pour un 4 pièces non équipé, vous voyez ce que je veux dire, sur la commune de Kuchelberg. C'est là qu'on les voit arriver, nous, accompagnés. Il s'agissait maintenant d'aller faire un grand nombre, de démarches administratives pour les stabiliser à Kuchelberg. Première chose, puisqu'ils avaient sur eux, je crois, à ce moment-là, encore 600-700 euros d'économie, c'est même pas énorme pour se lancer. Première chose, tâcher d'obtenir le revenu d'intégration, donc au CPAS. On se présente donc au CPAS, et puis alors, le premier problème arrive, il dit, vous êtes domicilié où ? Ben, ils étaient toujours sur Molenbeek. Ah ben, on ne peut pas intervenir, il faut vous faire domicilier. Deuxième chemin, deuxième petit accompagnement, la maison communale de Kuchelberg. Là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit gentiment, ça se passe un peu en anglais avec la dame, le mari ne parle ni français, ni anglais, ni rien, je ne peux pas le comprendre, elle parle un peu anglais. Donc notre seule communication pendant toute la semaine, c'est les quelques mots d'anglais que les uns et les autres maîtrisaient. On arrive à la mairie de Kuchelberg, je vous le disais, et là on dit, on ne peut juste que vous inscrire puisque vous n'habitez pas dans la commune, vous avez un bail mais vous n'y êtes pas.
Oui, c'est un peu Kafka.
Et là, c'est Kafka, on n'a pas de sous, il faut aller au CPS. Au CPS, on n'est pas domicilié, on tourne en rond. Je fais retour avec eux au CPS pour essayer de négocier la chose. Et on me dit, écoutez, on connaît quand même les agents de quartier. Qu'est-ce qu'il vous faut là-bas sur place pour que l'agent de quartier, qui lui va faire la visite pour voir si on est effectivement domicilié, il pourra peut-être se contenter, c'est texto, d'un ou deux matelas, quelques jouets des enfants, ils avaient deux enfants en bas âge, des restes de nourriture, une armoire, quelques... Oh mon Dieu, mais il faut les acheter. Il faut trouver l'armoire, le frigo, les choses. Et donc là, troisième accompagnement, on débarque, où ça? Au Petit Rien, à l'Armée du Salut, compagnon dépanneur, et on s'achète, enfin ils achètent, c'est un périple assez curieux, dans les stocks.
De quoi donner l'impression
de quoi donner l'impression qu'on commence à résider pour se domicilier.
Et donc le bail n'était pas assez, le document du bail n'était pas suffisant?
Non, absolument pas. Il faut être domicilié. Qui dit domiciliation dit vivre. Ça se prouve comment? Ça se prouve par une visite domiciliaire de l'agent de quartier. Mais s'il n'y a rien, il peut aussi bien dire, ici il n'y a personne. Voilà. Et donc, on est parti chercher quelques meubles et ainsi de suite. Quatrième accompagnement, toujours dans la semaine, dans un très mauvais temps, un temps pas comme aujourd'hui, mais un temps très belge à l'époque, c'était février, vous voyez, la pluie, la neige, 3-4 degrés, on se donnait rendez-vous le matin au métro Simonis, enfin, c'est tout un parcours et c'est là aussi la richesse. On va s'inscrire aux allocations familiales, il faut trouver à s'inscrire dans une mutuelle, alors expliquer en anglais à une Syrienne ce qu'est une mutuelle en Belgique, c'est aussi un parcours. Hein. Dire qu'il y en a plusieurs, qu'il faut faire un choix. Quel choix? Alors, basiquement, on a pris le choix de là où ça se trouvait le plus proche du domicile. Hein. On n'a pas fait de la philosophie. Allocation familiale, je viens de vous le dire. Voilà donc toute une série de démarches qui ont fini par quand même les stabiliser. Voilà un très bel accompagnement.
Oui, s'ils
donc,
avaient dû le faire tout seul, ça aurait été vraiment le parcours du combattant.
C'est galère.
Et vous, Maurice Hérion, est-ce que vous avez l'expérience que toutes les démarches aboutissent bien, comme celle que vient de raconter Benoît Héché?
Pas nécessairement, mais disons que dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, moi j'utilise souvent la phrase « le but a été atteint ». Parce que le but à atteindre, c'est souvent de confronter la personne, le bénéficiaire, avec son interlocuteur social. Maintenant, ce qui se passe après, ce n'est pas toujours de notre pouvoir. Nous essayons que ça se passe dans les meilleures dispositions possibles, que l'interlocuteur social ait tous les renseignements possibles qui puissent évidemment favoriser notre bénéficiaire. Mais vraiment, le dernier parcours, la dernière ligne droite, nous n'en avons pas toujours connaissance. Mais j'ai rarement eu l'impression que mon accompagnement n'avait servi à rien. C'est chaque fois un petit maillon, parfois d'une longue chaîne, comme on vient d'expliquer, ou parfois d'une chaîne très courte.
Et pour ceux qui ont parfois des préjugés ou des idées préconçues, vous trouvez que l'accès aux administrations, par exemple, est sympathique et agréable ?
Eh bien, j'ai très peu de mauvaises expériences. Mais maintenant, j'ai parfois l'impression que par rapport à ce que le bénéficiaire nous a dit avant et ce qui s'est passé après, lors de notre intervention, j'ai parfois l'impression qu'il y a un décalage. Mais en tout cas, que rien que notre présence facilite les contacts et parfois, l'interlocuteur social va chercher dans le dossier des documents qu'il n'avait pas montré au bénéficiaire ou qui a rendu un petit peu le dialogue difficile. Donc rien que notre présence, parfois, change un peu l'attitude. Mais je le répète, moi, je n'ai pas eu de très mauvaises expériences.
Le temps nous manque, malheureusement. On va arriver au bout de notre émission. Benoît Héché, Maurice Hérion, je rappelle que vous faites partie de l'association Accompagnée, dont nous allons donner toutes les coordonnées après cette émission. Merci beaucoup d'être venu témoigner pour nous et à une prochaine fois, j'espère.
C'est un plaisir.
Bien sûr.